7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Cette semaine, pour la première fois à Madagascar, se tient le 16e sommet de la francophonie qui accueille une trentaine de chefs d'État venus du monde entier sur le thème de la croissance partagée et du développement responsable. Autant dire que les jeunes, les universités, l'emploi, la recherche sont au cœur de ce développement qui doit progresser. La grande île de l'océan Indien reste aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde, avec 80% des jeunes en recherche d'emploi, 7% d'une génération seulement qui accède à l'enseignement supérieur. Alors comment faire évoluer les universités et les écoles pour répondre aux besoins du marché du travail? Peut-on réconcilier l'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise, favoriser l'entrepreneuriat des jeunes sans toutefois abandonner la recherche universitaire? Reportage d'Alice Milo à Antananarive.
Je m'appelle Sarik, j'ai 27 ans, je suis en chômage maintenant. Et depuis des années, j'ai alterné les périodes de chômage et le travail. J'ai eu mon bac en 2006 et j'ai fait des études en communication des entreprises.
À l'université?
Oui, à l'université d'Antananarive, dans la filière gestion. On m'a toujours dit, vas-y, fais de la gestion, tu trouveras toujours du travail. Mais malheureusement, j'ai échoué. À l'université d'Antananarive, il était vraiment difficile de travailler là-bas parce qu'on était 2000 étudiants. Et c'était vraiment le bordel. Donc j'ai perdu 2 ans là-bas. J'ai découvert beaucoup de matières que je connaissais pas du tout. J'ai jamais fait de la comptabilité. Qu'il faut avoir une base de mathématiques.
Que vous n'aviez pas?
Que j'ai pas, parce que j'étais en littéraire, au lycée. Ça a été une catastrophe. Donc j'ai dû quitter là-bas. Puis après, je suis entrée en filière communication. Et là, j'ai réussi. J'ai été embauchée tout de suite après un entretien. Mais le problème était que le directeur, il m'a draguée. Quand j'entrais dans son bureau, il me forçait à l'embrasser. Il n'arrêtait pas à me dire, t'es ma petite amie, t'es ma copine, je veux t'emmener en France, je veux t'embrasser, viens ici, patati patata. J'ai dû tout de suite quitter. Au bout d'une semaine, c'était vraiment la galère. Donc à partir de ce moment, j'ai plus de travail. J'ai du mal à trouver du travail. J'ai envoyé des dossiers partout, dans toutes les sociétés. J'ai fait du porte-à-porte où j'ai envoyé par Internet. J'ai fait un entretien dans une société qui fait de la logistique, du transport. Ils m'ont dit, les conditions ici, c'est qu'on entre à 7h du matin et on ne sort qu'à 19h du soir avec une pause d'une heure. Vous travaillez le samedi.
6 jours sur 7.
Voilà. Mais en fait, le salaire, c'était vraiment misérable. C'était à 300 000 ariary.
Par mois?
Par mois.
Ce qui fait à peu près 100 euros par mois.
100 euros par mois, mais c'est vraiment misérable au fait. Avec un budget pareil, je ne peux pas payer mon loyer. Comment on va faire pour la bouffe et pour les imprévus? Il y a du travail, mais c'est inacceptable les conditions. Si c'est à refaire, ouais, je veux tout refaire. Mais bon, hélas.
Bonjour Alice Milo.
Bonjour Emmanuel.
Avec 80% de jeunes en recherche d'emploi à Madagascar, est-ce que l'histoire de Sarik est vraiment courante?
Et oui, c'est un grand classique. Hein. Et on retrouve d'ailleurs dans ce témoignage presque tous les ingrédients du chômage des jeunes malgaches, dont une des principales causes est la massification de l'accès à l'enseignement supérieur. L'université d'Antananarive est passée de 300 étudiants dans les années 70 à 31 000 aujourd'hui, toutes filières confondues. Et le secteur économique, lui, ne s'est pas développé suffisamment vite pour absorber ces nouveaux flux d'étudiants.
Et donc, les jeunes se tournent vers le secteur informel.
Et oui, massivement. Le secteur informel représente donc aujourd'hui 70% de l'emploi des jeunes. D'après une enquête d'Hug Rajahonson, docteur en économie et directeur de l'Observatoire de Sciences Po à Madagascar.
C'est plus de la débrouille, en fait. Par exemple, ils font du droit et après, ils deviennent épiciers. Je connais un étudiant qui a eu son doctorat en économie et qui est maintenant chauffeur de bus. Vous avez des gens qui ont leur maîtrise en physique, qui sont devenus petits entrepreneurs en yaourt ou gargote, etc.
Pourquoi on en est arrivé là?
Les étudiants qui obtiennent leur bac ne savent même pas dans quelle filière ils vont aller. Ils ne savent même pas les débouchés. Donc, il y a une grande asymétrie d'informations hein, entre ceux qui vont entrer à l'université et les débouchés qu'ils vont obtenir. C'est une des défaillances de l'État de donner suffisamment d'informations aux jeunes dès la classe de seconde, etc. Les étudiants, maintenant, sont plus en lettres. Il y a peu de jeunes qui font les filières scientifiques. Il y a une réforme à faire au centre de l'enseignement supérieur. Ne garder que les secteurs porteurs. Par exemple, dans le tourisme, on a beaucoup à faire. L'hôtellerie, les transports, tout le secteur maritime. Madagascar est une île et on n'a jamais eu de politique publique, par exemple, pour former beaucoup de marins. La formation de techniciens de haut niveau, on n'a pas de gens qui ont les vraies capacités, l'électricité, tout ce qui est bâtiment, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. L'agriculture malgache reste une agriculture paysanne. Il n'y a pas d'entrepreneur agricole. Je crois qu'il faut abandonner ce qui est lettres, etc. Tout ce qui est droit, tout ce qui est sociologie, on n'a pas besoin de ça. Moi, je suis désolé de dire ça. Ce sont des filières qui sont inutiles. Il faut apprendre les langues pour les utiliser dans les autres professions. Par ailleurs, je souligne que les programmes n'ont pas changé depuis. Donc les entreprises, quand il y a un jeune qui sort de l'université, ils ne les prennent pas parce qu'ils ne savent rien faire. On n'est pas arrivé à livrer les vraies méthodes d'analyse. Former des gens dont la tête est bien faite, mais pas pleine. Un jour, je rencontre un étudiant, il a fait électrotechnique. Donc je dis, mais tu sais, la lumière ne marche pas. Il était incapable de faire le des trucs pour que la lampe s'allume.
La réparation.
Ben oui, c'est rien du tout. Mais même moi, je saurais le faire.
Pour vous, aujourd'hui, est-ce que des solutions sont mises en place?
Quand il y avait 300 étudiants, on avait la même université. Quand il y avait 40 000, l'université est restée telle qu'elle. Donc maintenant, est-ce qu'ils veulent faire des réformes adaptées aux 40 000 étudiants ou est-ce qu'ils vont envoyer une grande partie des étudiants dans les universités privées? Alors que justement, il y a des universités privées dont les responsables n'ont même pas le doctorat.
Vous faites référence là, en fait, au nombre important d'écoles privées qui pullulent en fait, dans le pays.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Mais ce sont des écoles sans contenu, en fait.
Sans contenu. Qui a donné l'habilitation? C'est nous. Ce sont mes collègues.
Le secteur privé a pris de l'ampleur dans l'enseignement supérieur ces dernières années à Madagascar, à Alice.
Et oui, il est passé de 15 à 25% en 10 ans. Alors pourquoi? Parce que 76 000 nouveaux bacheliers débarquent chaque année et que l'université d'Antananarive a la capacité d'en accueillir seulement 10 000. Les autres n'ont donc pas d'autre choix que de se tourner vers le secteur privé. Néanmoins, ces derniers temps, l'université mise sur la formation à distance pour désengorger les amphis.
Vous avez rencontré des responsables du ministère de l'enseignement supérieur, le président de l'université. Est-ce que vous avez le sentiment, Alice, que les autorités sont engagées désormais dans des réformes de fond pour l'employabilité des jeunes?
Eh bien, là, en fait, on en est vraiment aux prémices. Depuis 2008, le gouvernement a pris conscience que des réformes s'imposent, mais bon, pour le moment, rien de très concret n'a été engagé, si ce n'est un forum qui s'est tenu la semaine dernière à l'université et qui a réuni des étudiants, des enseignants et des entreprises pour trouver des pistes pour réduire le fossé entre diplôme et emploi.
Lesquelles?
Alors, la priorité est surtout de mettre l'accent sur les filières pourvoyeuses d'emplois telles que les sciences et les technologies, l'agroéconomie, le bâtiment, la communication et notamment l'un des secteurs très porteurs aujourd'hui, c'est l'apprentissage du chinois.
Et c'est possible d'apprendre le chinois sur le campus d'Antananarive?
Oui, absolument. L'Institut Confucius est installé sur le campus. J'y ai rencontré Eva Razandra, sa directrice.
En ce moment, nous sommes sur les hauteurs de la capitale de Madagascar, Antananarive. En face de l'Institut Confucius de l'université d'Antananarive, vous avez la statue du sage Confucius, qui est le patron donc des instituts Confucius, là où on apprend la langue et la culture chinoise.
Alors on rentre?
Oui.
Alors là on arrive dans la bibliothèque?
Oui, là c'est la bibliothèque et à l'étage nous avons 6 salles de classe.
L'Institut Confucius a été ouvert il y a combien de temps ici à Madagascar?
Il y a 8 ans, en 2008. Au début, il y avait une soixantaine d'étudiants. Mais actuellement, nous avons 400 étudiants. Il y a un véritable engouement des jeunes malgaches pour l'apprentissage du chinois. Et ils se rendent compte, avec l'arrivée massive des commerçants chinois, que ça pourrait leur permettre de trouver facilement du travail. Et dès la fin de leur première année d'études, il y a déjà beaucoup d'investisseurs chinois qui passent ici à l'Institut pour demander si on n'a pas des étudiants pour leur servir d'interprète. Il y en a qui se laissent attirer par la sirène et qui s'en vont pour travailler au lieu de continuer leurs études.
Donc là, on est à l'étage où il y a les salles de classe et on va rentrer dans la salle numéro 4.
我买那本书。好，我们来看看。我买那本书。 那本在这个句子里面是什么语？
定语。
再说一遍。
定语。
定语，很好， 定语。
Là, on voit une jeune fille qui fait de la calligraphie sur le tableau.
Oui, elle est en train d'écrire en chinois le livre Sterling.
C'est quoi l'objet du cours d'aujourd'hui ?
Sur le change à la banque.
Dès la première année, c'est très concret.
C'est normal parce que les Chinois, ce sont tous des commerçants.
我买那本书。好，我们来看看。我买那本书。
Cette enseignante, elle ne parle que chinois.
Oui. À l'institut, on a une trentaine d'enseignants, et dont 13 ou 14 enseignants chinois et le reste des enseignants malgaches.
Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'avoir justement des professeurs de chinois qui ne parlent pas du tout français, vous, mademoiselle?
Je m'appelle Ayn. Au début, c'est un peu difficile, mais c'est plus mieux d'entendre un chinois qui parle chinois que d'entendre un malgache ou un français ou un anglais qui parle chinois. Ils peuvent nous dire, non, c'est faux, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Corriger les accents.
Oui, corriger les accents. Moi, j'ai 18 ans.
Et donc, juste après le bac, vous êtes rentrée ici à l'Institut Confucius?
Oui, juste après le bac, je suis entrée ici.
Mais comment ça vous est venu, ce désir de la langue chinoise? Parce qu'ici, on est quand même très très loin de la Chine.
J'aime beaucoup regarder les dramas, les séries japonaises, les séries coréennes.
À la télé?
Oui, à la télé, surtout j'achète des CD. Il y a un acteur que j'aime beaucoup, mais il habite en Taïwan. Mais les Taïwanais parlent mandarin, donc c'est aussi à cause de ça que j'ai étudié le chinois.
Vous êtes tombée amoureuse de cet acteur, quoi.
Oui, on peut dire, c'est mon idole.
Vous pouvez répondre aussi les autres, mais est-ce qu'apprendre le chinois quand on vit à Madagascar, c'est aussi une raison d'opportunisme économique? Est-ce que vous avez plus de chances de trouver un emploi ici en parlant chinois?
Exactement. Il y a des gens qui savent déjà parler le français et l'anglais. Pour se distinguer un peu des autres, il fallait avoir un autre choix. Être guide, traductrice ou interprète, c'est ce que je voudrais faire. Mon père, il travaille pour une compagnie minière chinoise.
Et lui, il fait quoi comme genre de travail alors?
En fait, il est chauffeur des engins, comme tracteurs, les camions. Mais il ne sait pas parler cette langue. Donc il s'est dit, vas-y ma fille, fonce. Il dit tout le temps ça aussi, c'est la langue du futur.
La Chine est très présente à Madagascar depuis les années 70. Ils sont surtout dans l'exploitation minière. Ça commence à faire grincer des dents parce que les Malgaches pensent que les Chinois, ils sont partout. Ils sont aussi en train de, entre guillemets, piller les ressources halieutiques. Et ils sont aussi dans les travaux publics, construction de routes, des grandes infrastructures, des ponts. Et c'est là où l'Institut Confucius joue un rôle clé parce que c'est pour qu'il y ait une meilleure compréhension entre le peuple chinois et le peuple malgache. Moi, je leur dis que si vous laissez vos richesses sous la terre, on ne pourra jamais développer le pays. Parce que les Chinois, ils viennent ici pour nous aider à développer économiquement notre pays, dans un souci permanent de coopération gagnant-gagnant. Les Chinois ne viennent pas ici pour piller.
Yes, you're a 我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好。
Mais qui est donc cette jolie voix chinoise ?
Une malgache, elle s'appelle Nancya.
Ah, c'est une malgache ?
Eh oui, elle s'appelle Nancya et c'est la lauréate d'un concours de karaoké de chant en chinois. Alors, il faut bien voir que la Chine est devenue le premier partenaire économique de Madagascar. L'année dernière, sur 484 entreprises étrangères créées sur la grande île, 168 sont chinoises contre 110 françaises.
Oui, ça donne une idée. Et sinon, quelles sont les autres pistes envisagées par le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'emploi des jeunes, Alice ?
Alors, tout le monde s'accorde à dire que l'enseignement est trop académique et qu'il faut développer des partenariats avec les entreprises. C'est donc le chemin que l'université s'engage à prendre dans les années à venir et certaines institutions l'ont déjà compris depuis longtemps. C'est le cas de l'INSCAE, une des filières d'excellence du pays, où l'on entre par un exigeant concours d'entrée.
Bienvenue à l'INSCAE, qui est l'Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprise. On est l'école numéro 1 en formation en gestion. Et nous sommes chargés de former les futurs cadres dans le domaine de la finance et de l'administration d'entreprise.
Vous êtes étudiant ici ?
Oui, je suis étudiant en Master 2.
Vous appelez comment ?
Cédric.
Donc là, on est sur le campus qui se situe dans le quartier 67 hectares d'Antananarive. Là, on est dans la cour devant le bâtiment et aujourd'hui, c'est un jour festif, c'est ça ?
Aujourd'hui, c'est consacré aux journées associations et entreprises. Ça a commencé hier, ça se termine aujourd'hui. Là, c'est la BFVSG, c'est une banque. Ils sont là en train de proposer des stages, des emplois aux étudiants qui sont éventuellement intéressés.
On rentre dans l'école ?
Oui, d'accord.
Je vous suis ?
Ça fait depuis 1983 que l'école est là. Depuis, les personnes qui sont sorties de l'INSCAE ont vraiment monté les échelons, sont à des postes vraiment élevés. Déjà, le président de la République, il y a aussi ceux qui sont directeurs de cabinet au niveau des ministères, ils sont PDG de multinationales, PDG aussi de grandes sociétés malgaches. La motivation principale des étudiants quand ils viennent s'inscrire ici, c'est d'abord de s'assurer d'avoir du travail. Moi, j'ai passé 5 ans à l'INSCAE, donc je m'attends à un certain niveau, aussi bien au niveau du poste qu'au niveau de la rémunération. Je pense que c'est normal pour tous les étudiants. Mes parents ont investi énormément pour que j'ai une formation vraiment au top.
Et donc vous faites partie quand même d'une minorité dans le pays, non ?
Sûrement, il ne faut pas se mentir. C'est vrai que on regarde, là on dirait qu'il y a plein d'étudiants ici, mais ça représente vraiment une infime partie de tous les étudiants de Madagascar.
Je suis Victor Harrison, je suis le directeur général de l'INSCAE. Lors de la sortie de promotion au mois de juin dernier, nous avons fait une enquête. 50% des étudiants travaillent déjà.
Comment est-ce que vous favorisez justement cette interaction avec le monde du travail ?
Nous avons signé des conventions de partenariat avec plusieurs entreprises. Nous invitons également des professionnels à assurer des séminaires ou bien même des cours chez nous, et nous avons multiplié les stages. Nous avons mis en place le système d'alternance en fin du Master 2. Et les étudiants sont tout de suite opérationnels.
Il faut préciser, Alice Milo, que l'INSCAE est une école publique à Madagascar, mais payante.
Oui, seuls 17% de son budget provient de subventions étatiques. Ce sont donc principalement les frais de scolarité qui sont de 350 euros par an et par étudiant qui permettent le fonctionnement de l'établissement, alors que je le rappelle, 80% de la population vit avec moins d'un dollar par jour et que l'INSCAE compte seulement 1% de boursiers.
Suite de votre reportage, juste après le flash, vous suivez des jeunes, leur parcours, leurs débouchés aussi, leurs recherches dans l'emploi. On se retrouve juste après le flash dans un tout petit peu plus de 3 minutes pour votre reportage à Madagascar, Alice Milo.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Ah, bonjour.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Reportage à Madagascar, deuxième partie avec vous Alice Milo, à l'occasion du 16e sommet de la francophonie. Vous avez répondu à l'invitation de l'Agence universitaire de la francophonie. L'université malgache, on l'a entendu en première partie, n'est qu'aux prémices du changement des réformes pour améliorer l'employabilité des jeunes qui sont massivement déclassés ou sans emploi. 80% d'entre eux sont en recherche d'emploi. Les entreprises, elles, en revanche, n'ont pas attendu pour s'adapter et pour trouver des solutions à leurs besoins de main-d'œuvre qualifiée.
Absolument, et c'est notamment le cas du secteur de la télécommunication qui fleurit ces dernières années à Madagascar. On compte aujourd'hui une quarantaine de call centers dans le pays. Alors, direction La City, le quartier des affaires d'Antananarive, c'est là que se trouve Easyco, un de ses tout nouveaux centres d'appel avec 200 opérateurs, et l'entreprise prévoit d'embaucher 100 personnes tous les 3 mois pour atteindre in fine 1000 personnes.
Bonjour Mia, à votre écoute. Vous avez déjà effectué la commande et vous l'avez déjà payée ?
Très bien.
Oui.
Je suis Jules Lasboquier, directeur général de Easyco, centre de relations clients à Madagascar. Nous nous trouvons au sein du campus Easyco. Notre campus, c'est un centre de relations clients. On peut aussi parler de centre d'appel.
Donc là, on est dans l'open space.
Vous avez donc ici 284 positions de travail de téléconseillers chargés de clientèle.
Donc là, on voit vos agents, ils sont sous des casques, avec des micros, devant des ordinateurs.
Tout à fait. On a un grand opérateur de télécommunications, donc dans l'audiovisuel, un opérateur privé français, dont on ne citera pas le nom. Ces informations restent confidentielles en accord avec nos clients. Et donc les abonnés de cette chaîne payante, lorsqu'ils ont un besoin d'informations, de réclamations, de réabonnement, quelle que soit leur interrogation, ils contactent le numéro de cette chaîne et ils tombent donc effectivement chez nous, au sein d'un opérateur qui est susceptible donc de traiter l'ensemble des demandes.
Pourquoi avoir choisi Madagascar pour vous installer ?
D'abord, bien évidemment, il faut être dans une localisation où le français est maîtrisé, ce qui est le cas de Madagascar. Il faut bien évidemment aussi avoir des technologies, des interconnexions entre le pays et la France pour le trafic de tout ce qui est voix et data. Et donc jusqu'en 2010, Madagascar était câblé avec un câble sous-marin. Depuis 2010, il y a un deuxième câble sous-marin, il y en a un troisième qui est en prévision. Et bien évidemment, un bassin d'emploi qui est propice à ce type de métier. Et donc dans notre étude que nous avons faite pour choisir l'implémentation de notre centre, Madagascar répondait à l'ensemble de ces critères.
Est-ce que la réduction des coûts aussi au niveau de la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui a joué dans le choix de Madagascar ?
Bien évidemment, les annonceurs sont à la recherche de réduction de leur budget alloué à la relation client. Madagascar, bien évidemment, avec les coûts qui sont pratiqués, est une destination qui répond également à cette exigence très forte des clients français. La particularité ici des jeunes malgaches, c'est qu'ils ont un français qui est quand même relativement bon, sans accent, ce qui est extrêmement important également, puisqu'ils sont en contact toute la journée avec des consommateurs, des abonnés qui sont français. Et surtout, ils ont une empathie au téléphone qui nous surprend tous les jours et qui surprend nos clients tous les jours.
Mais qui est une qualité culturelle, vous voulez dire ?
Oui, tout à fait. Une certaine sérénité, une zen attitude qui correspond parfaitement à ce qu'on recherche dans notre métier.
Donc, pour vous, le français, c'est vraiment une langue de développement économique ?
Ah oui, clairement. Quand on voit le potentiel de notre secteur ici à Madagascar, le français est clairement un atout pour le développement économique, l'employabilité sur l'île.
Bonjour, Daniel à votre écoute. Pouvez-vous alors m'indiquer le numéro de la commande, s'il vous plaît ? De mon côté, alors, je vais vous mettre directement en relation avec la cellule One. Je vous remercie de votre appel à la et je vous souhaite une agréable journée, monsieur Damien.
Vous étiez avec un client ?
Oui, la plupart du temps, en fait, on a des réclamations par rapport à des colis qui ne sont pas livrés à temps, des colis qui sont perdus.
Donc vous avez plutôt au téléphone des gens qui ne sont pas forcément toujours très contents ?
Oui, la plupart des clients, en fait, ne sont pas vraiment contents. Au fur et à mesure, ils se calment. En 2011, quand j'ai commencé ce métier, j'ai dû apprendre la langue française à l'Alliance.
À l'Alliance française ?
Oui, on cherche du travail. C'est toujours en français. On a vraiment besoin du français.
En fait, les clients que vous avez au bout du fil, il faut qu'ils croient que vous êtes en France ?
Oui, on est à Gagny.
C'est que vous leur faites croire que vous êtes en région parisienne ?
C'est bien cela.
Mais parce qu'ils vous posent la question ?
Des fois, oui. Ils nous demandent même notre nom et on doit leur fournir des noms français.
Par exemple, vous, c'est quoi votre nom d'état civil ?
Grave Daniel, c'est mon prénom.
Quand vous appelez, vous dites quoi ?
C'est Daniel.
Mais s'il n'y avait pas les call centers, vous feriez quoi ?
La location de voiture pour les touristes. Ici à Tana, il n'y a pas d'opportunité en fait.
C'est moi qui vous remercie de l'appel, monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir.
les opérateurs sont directement efficaces et opérationnels, ou est-ce que vous avez dû vous adapter aussi aux particularités du pays ?
Le métier n'est absolument pas connu, il est très peu connu. C'est pour cette raison qu'on a développé toute une structure académique où on privilégie l'intégration et la formation au métier. Et c'est vraiment à l'issue de ces 3 mois, avec un programme de certification à la fin, que les candidats et les stagiaires sont embauchés au sein de EZCO sur un programme client.
Mais ils ont besoin d'apprendre quoi concrètement ?
Tout simplement, c'est comment on dit bonjour. Comment est-ce qu'on écoute activement un client ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'empathie ? Comment est-ce qu'on apprend à reformuler une demande d'un client pour s'assurer qu'on l'a bien comprise ?
Voilà. Mais pour vous, c'est quand même un coût énorme.
C'est un investissement. Après, ce qui est important en termes de cursus scolaire, c'est qu'effectivement, il y a des structures et on est en train de créer des partenariats avec des écoles privées ici à Antananarivo, avoir des gens qui sont formés sur le commerce, la communication, le management.
De manière plus générale.
De manière beaucoup plus générale. Et ensuite, nous, on apporte la touche, effectivement, option, entre guillemets, relation client.
Aujourd'hui, le monde de l'entreprise privée qui s'installe à Madagascar n'attend pas du gouvernement que des efforts soient faits. Vous prenez les devants, quoi.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut prendre les devants. C'est extrêmement important. On est sur un secteur qui se développe très rapidement. On sait qu'engager des discussions, peut-être au niveau des ministères de l'État, c'est des choses qui peuvent prendre un certain temps, voire plusieurs années. Nous, on est vraiment sur un secteur qui s'installe, qui se développe. On prévoit plusieurs milliers d'emplois dans le domaine de la relation client ici, Antananarivo, dans les prochains mois. Je dis bien dans les prochains mois. Donc effectivement, il faut qu'on aille vite. Mais bien évidemment, si on peut le faire en partenariat également avec les institutions gouvernementales, ce serait bien évidemment avec plaisir.
D'accord. En cas de besoin, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous restons toujours à votre écoute. Je remercie donc de votre appel et je vous souhaite de passer un très bon après-midi. À très bientôt sur... Au revoir.
Nous sommes en plein sommet de la francophonie à Madagascar. Le français, on l'entend, reste une langue de développement économique, comme on vient de l'entendre, Alice Milo.
Oui, absolument. Même si la question de la langue française reste hautement sensible à Madagascar, c'était la langue d'enseignement jusque dans les années 70, date où l'État a procédé à une malgachisation dans les écoles, avant de rétro-pédaler 20 ans plus tard. Alors aujourd'hui, en théorie, le français est la langue d'enseignement, mais la réalité est tout autre, puisque les langues malgaches persistent dans de nombreux établissements scolaires. L'État forme donc maintenant les enseignants en langue française. Ce n'est que le début et ça va prendre du temps.
Et justement, les écoles privées, elles, n'ont pas attendu pour s'adapter au marché de l'emploi.
Oui, effectivement, de plus en plus de partenariats écoles-entreprises fleurissent dans le pays. Ces partenariats sont un gage pour trouver du travail. Les écoles communiquent donc fièrement là-dessus, comme c'est le cas de l'ESMIA, une école privée de management et d'informatique qui a scellé un accord avec l'opérateur Orange Madagascar. Visite avec la fondatrice et directrice des lieux, Romaine Ramananarivo.
Ici, vous avez le bureau de la direction générale. Juste près de notre bureau, nous avons le parc informatique, là où il y a donc pour des ordinateurs, pour les étudiants.
Il y a une quinzaine d'étudiants là en ce moment qui sont en train de travailler.
Donc là, ils finalisent le rapport de stage. Dès la première année, les étudiants, on les forme déjà pour trouver des stages. Depuis janvier 2016, on a mis en place un partenariat avec Orange.
Orange Madagascar.
Orange Madagascar. Parce que le problème actuellement, c'est que les entreprises, ils disent, on ne recrute pas les jeunes s'ils n'ont pas d'expérience professionnelle.
Alors, monsieur, vous êtes d'Orange.
Oui, bonjour, je suis le DRH d'Orange Madagascar. Et effectivement, avec ESMIA, on a ce partenariat.
Vous vous appelez comment ?
Zou Andriatslav. Nous nous engageons à recruter les stagiaires de l'ESMIA. On a l'occasion de faire avec ces stagiaires 3 mois ou 4 mois ou 6 mois de vie commune. Ça nous permet de bien regarder puis de bien sélectionner aussi.
Ce qui fait que quand vous les embauchez, en fait, ils savent déjà comment fonctionne la boîte.
C'est exactement l'idée de ces stages-là.
Bonjour. Vous êtes étudiante ici à l'ESMIA ?
Je suis en deuxième année.
Et tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Taïne. Donc jusqu'à maintenant, j'ai fait en tout 4 stages. Donc ça me permet de voir petit à petit le monde professionnel, qu'est-ce qui se passe là-bas. Quand j'étais chez Orange, par exemple, mon manager m'a demandé de faire un entretien. Et je n'ai pas apporté de cahier ni de stylo. Et elle m'a, je dirais, pas grandée. Et elle a dit, il faut avoir l'habitude de faire ça. Parce que c'est vraiment très pratique. Tu ne peux pas te souvenir de tout ce qu'on va dire ici, mais tu dois prendre des notes. Et là, vraiment, c'est devenu une habitude.
Et ils apprennent dans l'entreprise, en fait, tout ce qu'ils n'apprennent pas à l'école. Plus simplement, en fait, on les met devant des situations concrètes. Quand on prend des stagiaires sur l'ingénierie de télécommunication, Ils ont leur cours théorique sur comment ça marche une antenne de téléphonie. Mais ce qui est important pour eux, c'est de comprendre et d'aller sur le site proprement physique pour monter sur les pylônes et puis identifier ça c'est l'antenne, ça c'est la machinerie et ça c'est la carte mère qui sert à faire fonctionner l'antenne. Et ça leur permet en fait de comprendre mieux ce qu'ils apprennent dans leurs cours. Et puis les cours aussi, ça leur permet d'apporter leurs propositions. Et généralement, ils en ont beaucoup de propositions parce que c'est du son neuf, c'est des nouvelles idées que nous, les professionnels qui sont dans le métier depuis quelque temps, parfois on perd de vue.
Cette politique de stage à Madagascar, est-ce que c'est quelque chose d'assez récent ?
Quand j'ai essayé de trouver des stages quand j'étais étudiant, je vous avoue que c'était vraiment très, très, très difficile.
Vous avez quel âge ?
40 ans. Les écoles étaient plutôt enfermées de leur côté dans les dogmatismes sur le monde professoral et les entreprises ne communiquaient pas assez vers les écoles pour leur dire ce qu'on a besoin, nous, entreprises, c'est cela. Et c'est cela que vous devez enseigner à vos étudiants. Aujourd'hui, toutes les entreprises, heureusement, et avec toutes les écoles, on essaie de monter ces partenariats-là pour permettre à nos jeunes de mieux se développer et d'être mieux intégrés par rapport à ces stages. Tout le monde a y gagné, les étudiants, l'école, les entreprises.
Oui, ben je crois que c'est clair. À Madagascar, évidemment, comme partout en Afrique, les jeunes doivent avant tout compter sur eux-mêmes pour trouver du travail à l'ISMILO. Et l'entrepreneuriat est en train de devenir la nouvelle religion dans le pays, comme ailleurs sur le continent où l'on veut croire à tout prix que l'entrepreneuriat des jeunes, ça va marcher.
Alors clairement, tout le monde n'a plus que ce mot à la bouche. Hein. L'entrepreneuriat, c'est presque une formule magique pour sauver la jeunesse. Que vous alliez à l'université ou dans les écoles privées, les modules de cours spécialisés dans l'entrepreneuriat poussent comme des champignons. Alors d'ailleurs, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, a décidé d'héberger dans ses locaux Incubon, un jeune incubateur social qui accompagne des startups.
Et dans quel domaine ?
Alors dans tous les domaines. Le seul critère, c'est que l'entreprise doit avoir un objectif d'impact social. Pour le moment, Incubon accompagne 7 projets, alors dans l'artisanat, le transport, le bois et dans l'habitat. Je vous propose d'ailleurs de suivre Lilia Ratefia-Rivoni. Elle a 24 ans. Après avoir passé 5 ans en France pour ses études, elle a décidé de rentrer à Madagascar pour devenir promoteur immobilier avec sa société Ivana.
Alors ici, on est à 40 minutes de Tana. On est sur un terrain qui appartient à Ivana. Là, on est juste devant la maison témoin. En fait, on propose des maisons qui sont abordables, donc qui commencent à partir de 18 000 euros. C'est ce qu'on peut encore trouver de moins cher sur le marché à Madagascar actuellement, sur du neuf et sur des lotissements.
Votre maison témoin, vous l'avez construite dans une zone semi-rurale, semi-urbaine. Et juste en face de la maison, là, il y a un grand champ.
Ouais, c'est des rizières. En fait, on n'est pas si loin, au fait, de Tana. On est quasiment à l'entrée de la périphérie. On a vraiment misé de là-dessus parce que Tana est de plus en plus congestionnée. C'est de plus en plus insalubre aussi. Et il n'y a qu'un seul moyen pour Tana d'évoluer, c'est d'aller vers les périphéries, dans le nord qui commence vraiment à beaucoup évoluer, surtout avec les nouvelles routes qui sont en train de se faire.
Donc là, c'est la maison témoin. Il y a 3 marches et vous me faites la visite.
D'accord. Alors, première chambre là. Voilà. Ensuite, on est dans le séjour avec une cuisine ouverte. Il y a 3 chambres. Et une salle de bain, baignoire, douche. En tout, il fait 90 mètres carrés.
C'est votre maison la moins chère ?
Non, on a une moins chère encore, qui est à 18 000, mais qui a que 2 chambres et qui est plus petite.
18 000 euros ?
18 000 euros. Par rapport à un pouvoir d'achat malgache, on va dire que s'ils font un prêt, ça reste abordable. Après, c'est vrai que ça ne sera sûrement pas pour la plupart des malgaches qui vivent à moins de 2 dollars par jour, qui est vraiment 80% de la population. Mais il y a un début de classe moyenne qui commence à se mettre en place, qui peuvent absolument se mettre ce genre de bien. Sur un prêt à 20 ans, c'est complètement dans leur budget parce que ça représente juste le loyer qu'ils paient tous les mois.
Comment on fait aujourd'hui pour faire une maison à 18 000 euros alors qu'on est quand même dans des surfaces confortables avec, a priori, en tout cas de ce que je vois là, du matériel de bonne qualité ?
On a 3 hectares qui vont héberger 65 maisons. Donc notre démarche, c'est justement de diviser les coûts avec le volume qu'on peut faire. Et on achète à, on va dire, à presque 100 fois moins cher qu'en ville, quoi, le prix du terrain. On ne sous-traite pas, ça veut dire qu'on fait tout nous-mêmes, on coupe tous les intermédiaires. On fait appel à vraiment des petits artisans qu'on forme. Le fer forgé, c'est quelqu'un qui fait du fer forgé à côté de chez nous. Mais on a vraiment un engagement sincère dans le social. Je ne me voyais pas avoir un emploi et et aller au boulot à 8h, revenir à 17h. J'ai toujours voulu vivre ça, au fait.
Et donc, vous êtes une des entreprises incubées de Incubon, un incubateur social qui est présent donc à Tana depuis un an.
Voilà, on est très contents d'être dedans. On a eu pas mal d'opportunités grâce à Incubon. Ils nous ont mis en relation avec des associations qui remettent des personnes dans des situations précaires sur le marché de l'emploi. Donc, c'est des associations qui forment des personnes à des métiers manuels comme la menuiserie, la peinture, la maçonnerie.
Des associations d'insertion professionnelle.
Voilà, exactement. Ils ont, par exemple, construit des fenêtres chez nous, des portes. On va en appeler d'autres pour ensuite peindre nos maisons, par exemple. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible sans Incubon. Parce que Incubon, en tant qu'incubateur social, avait les relations qu'on n'avait pas. Il nous conseille beaucoup. Donc, moi, ce que j'aime bien chez Incubon, c'est que comme je suis un peu seule sur le projet, j'ai besoin de quelqu'un avec qui parler, brainstormer, échanger des idées. Quelqu'un qui a le recul que moi, j'ai pas sur mon projet.
Être entrepreneur, de manière générale, c'est quand même une démarche qui est aussi difficile. Est-ce que c'est pas particulièrement vrai dans un pays comme Madagascar ?
Ici, tout est encore un peu à la main, on est dans des cahiers, on perd, l'administration perd des papiers. Il y a aussi la corruption qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui mettent du temps à avancer. À chaque niveau, la personne essaie toujours d'avoir un petit peu pour lui. Donc pour contourner ça, on peut faire les choses plus vite en payant, mais si on veut faire les choses dans les règles, ça prend des mois et des mois et des mois, quoi. L'avantage, c'est que tout est beaucoup plus facile. On est vraiment sur un marché où certaines choses sont à faire. Donc c'est très facile de se démarquer. J'aurais créé une entreprise de promotion immobilière, on va dire, aux États-Unis. Je ne pense pas que j'aurais eu le même impact aux États-Unis qu'à Madagascar, par exemple. C'est très facile d'inventer quelque chose de nouveau. Voilà.
Alice Milo, cette jeune malgache que l'on vient d'entendre, promoteur immobilier, est soutenue par Incubon, cet incubateur social qui existe depuis un an maintenant.
Oui, absolument. Incubon a été fondé par deux jeunes, Tsiori Razafim Pahanana, 26 ans, et Malaika Rakoto Malala, 31 ans. Tous deux sont des repates, donc ils sont partis faire leurs études en France, puis ils ont décidé de rentrer à Madagascar pour être utiles à leur pays. Aujourd'hui, ils proposent une aide gratuite à ces jeunes entrepreneurs et d'ailleurs, eux-mêmes se financent à travers du conseil en entreprise et la location d'un espace de travail collaboratif qui est ouvert à tous et qui ouvre justement cette semaine.
Incubon est né en novembre 2014. Le constat était très clair, c'est que la jeunesse malgache est une jeunesse qui a cette envie d'entreprendre mais qui ne sait pas trop comment aborder la chose. On trouve un peu partout sur les réseaux sociaux malgaches des initiatives qui malheureusement sont extraordinaires sur papier mais qu'on ne retrouve jamais en réalité. Donc il y avait quelque chose à faire et c'est comme ça qu'on a créé Incubon. L'idée était tout simplement de donner l'accès à l'entrepreneuriat, à la jeunesse qui veut changer des choses.
En fait, on leur propose un accompagnement stratégique, un accompagnement qui est personnalisé. Donc ça va dépendre du stade auquel se trouve l'entrepreneur. S'il se trouve à un stade d'idéation, il a une idée, mais il ne sait pas, il n'y a encore rien qui est fait, on va mettre en place la structure administrativement, la stratégie, le business plan, tout va être fait. Et donc nous, Incubon, on va les aider à ce niveau-là. Si l'entreprise est déjà à un stade de prototypage, a déjà un produit, a déjà des clients, mais ne sait pas encore comment distribuer son produit, ne sait pas comment le vendre, on va lui proposer des conseils au niveau marketing, au niveau de la communication. Donc en fait, l'offre est hyper personnalisée parce qu'elle dépend des besoins de chaque entrepreneur. On va les mettre en lien avec donc soit des investisseurs, des partenaires, des fournisseurs, d'autres entrepreneurs qui sont dans le même secteur, les mettre en lien avec des plateformes de financement participatif, trouver des business angels qui seraient intéressés.
Qu'en est-il des financements traditionnels ?
L'État parle souvent de bancarisation, mais au final, avec des taux exorbitants à 12%, c'est quasiment impossible de faire des prêts bancaires. Et c'est pour ça qu'on accentue beaucoup nos recherches sur le financement participatif.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez des réformes de la part de l'État pour assouplir la réglementation et faciliter la création des petites et moyennes entreprises ?
À Madagascar, tu as 90% des entreprises qui sont informelles. Donc 10% des entreprises qui sont formelles, elles doivent payer les impôts. Du coup, les impôts sont très forts. Et toutes les prestations sociales sont payées grâce aux impôts de ces 10% d'entreprises-là. Alors que si toutes les entreprises payent, même de manière symbolique, peut-être que les prestations sociales seraient plus élevées. La jeunesse n'a plus le choix, en fait. La jeunesse se doit de travailler pour elle-même, de créer pour elle-même son emploi d'abord, et ensuite l'emploi pour les autres.
Pour un jeune, par exemple, qui n'a pas d'idée précise, vous lui diriez d'aller vers quoi ?
L'alimentation, l'agriculture, l'éducation, la santé, tous les secteurs sont en état d'urgence ou en état de crise.
À Madagascar, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, il y a tout à faire.
L'entrepreneuriat comme solution miracle à l'emploi des jeunes à Madagascar, Alice Milo, est-ce que le pays mise aussi tout de même sur la recherche ?
Oui, mais c'est très récent. Depuis 2013, le gouvernement s'est engagé dans de nouvelles stratégies vis-à-vis de la recherche. Objectif, encourager les travaux de recherche qui répondent aux besoins de l'industrie et de l'économie malgache, autrement dit des recherches utiles.
Par exemple ?
Alors, la priorité aujourd'hui est clairement donnée à l'agronomie. Notamment, le gouvernement a financé récemment des travaux de recherche de l'IMVAVET. Alors, c'est l'Institut malgache des vaccins vétérinaires, qui a élaboré un nouveau vaccin pour la volaille qui permet aux éleveurs de le transporter sans glacière. Mais les fonds de l'État sont limités et les laboratoires de recherche doivent donc toujours trouver d'autres stratégies de financement. Exemple, à la Faculté des sciences, dans le laboratoire international associé avec son co-directeur Wong Vestalis.
On est au laboratoire international associé, qui est un laboratoire issu de la collaboration entre l'université de Lyon et l'université d'Antananarivo.
Donc là, on rentre dans un premier bâtiment.
Oui, on est dans le laboratoire de chimie. Ce sont les paillasses et là, ce sont les extracteurs qu'on utilise pour extraire les matières végétales. Donc tout ceci, c'est pour faire de la chimie verte, c'est-à-dire de la chimie écologique, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, qui utilise des réactifs moins toxiques, des produits qui sont biodégradables et aussi des matières premières qui sont disponibles et naturelles. À commencer par le noix de cajou. Les industries qui exploitent les noix de cajou, ils jettent les coques.
Là, il y en a sur la paillasse. Oui. Il y a une poignée sur la paillasse. Donc ça, c'est la noix de cajou quand elle est entière.
Ça, c'est la noix de cajou entière. Quand on casse les graines, il y a les noix qui sont consommables et les coques. Ensuite, à partir des coques, on fait des extractions et on aura l'huile. Et à partir de l'huile, on peut extraire de la matière d'origine naturelle, donc, qui pourrait être utilisée en alternative à la matière première issue du pétrole pour fabriquer des grosses molécules qu'on appelle polymères, comme les plastiques, les éponges, les polyamides.
Par exemple, pour fabriquer des sacs plastiques.
Voilà, pour fabriquer les sacs plastiques, par exemple.
Et donc, quel est l'intérêt pour vous de cette recherche ?
Ça a un impact direct sur notre économie. Jusque-là, on a travaillé pour publier, pour avoir des résultats qui seront stockés dans des tiroirs ou dans des livres, dans des revues, mais ça n'a aucun impact direct sur notre économie. Donc, il est temps maintenant de regarder aussi le côté financier. Donc, on se concentre sur la recherche, mais on regarde aussi ce que ça va nous donner après. Qu'est-ce que ça va nous rapporter ? Donc, il faut vraiment qu'on travaille avec des industriels. Soit on cofinance l'activité industrielle, soit on leur vend les brevets. On a besoin qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on va traiter comme thème parce qu'ils ont besoin de ceci pour booster l'économie.
Philippe Bataille, je suis le directeur du bureau océan indien de l'Agence universitaire de la francophonie.
Et quel est votre lien avec ce laboratoire qu'on est en train de visiter ?
Alors notre lien, c'est qu'on soutient un projet sur la valorisation des déchets de la noix de cajou. L'enseignement supérieur et la recherche, ça peut être un moteur du développement économique. Et donc on a pris conscience que quand il y a eu l'augmentation du nombre de chômeurs généralement, notamment du nombre de chômeurs diplômés en sciences supérieures, qu'il fallait revoir un peu les choses et créer des liens entre ces univers qui s'ignorent, entreprise et recherche. Et ça va venir, c'est pas parce qu'il n'y a pas de résultats aujourd'hui. Là, on a encore avec eux récemment rencontré un industriel qui a découvert ce labo et qui est intéressé, qui travaille déjà lui-même dans le recyclage de produits naturels. Il faut laisser un peu de temps au temps.
Quand vous dites que vous les soutenez, ça veut dire quoi exactement ?
On les soutient de deux manières principalement. D'abord par de l'argent, mais pas simplement comme un guichet qui donnerait de l'argent. Et puis on les accompagne justement dans ce lien avec les entreprises. Il y aura prochainement un symposium sur la chimie verte qui va se tenir dans le cadre du sommet de la francophonie. On les soutient sur cette manifestation. Et cette manifestation a deux objectifs. La première, elle est scientifique. On fait des symposiums, il faut que les chercheurs se rencontrent au niveau international. Et la deuxième chose, c'est faire du lien avec le monde entrepreneurial. Donc on les a aidés dans la rencontre avec des groupements d'entrepreneurs pour participer à des tables rondes lors de ce symposium.
De quelle manière, concrètement, encourager les recherches des laboratoires, ça peut créer de l'emploi ?
Alors dans ce laboratoire précis, ça a permis d'embaucher 7 personnes dans le labo lui-même. Mais il y a aussi création d'emplois dans des entreprises. C'est exactement une problématique internationale. Les docteurs peuvent devenir des enseignants-chercheurs, mais ils peuvent aussi aller valoriser leurs compétences dans le monde économique et industriel. Donc ça, c'est une dynamique qui est en cours.
Si les laboratoires misent sur le financement privé des entreprises pour stimuler leurs recherches, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec des domaines qui n'intéressent pas du tout le monde des entreprises et qui vont trouver aucun moyen de financement? Je pense en particulier aux sciences humaines.
On est aussi attentif, mais avec des critères qui vont être différents, à soutenir aussi ces démarches-là, parce qu'on a besoin de connaissances dans ce domaine. Les sociétés ont besoin de se comprendre dans le présent, dans leur histoire. Il ne faut pas abandonner ça, même s'il n'y a pas une valorisation économique immédiate. Mais il y a aussi de l'employabilité à créer dans ces métiers-là, puisque ici, par exemple, à Madagascar, on travaille avec une association des DRH d'entreprise. On recherche aussi des gens qui savent penser, lire, écrire. Donc c'est aussi une matière qu'on peut valoriser.
On a entendu beaucoup de femmes dans ce reportage.
Oui, des femmes dynamiques et qui sont dans tous les secteurs d'activité dans le pays.
C'est un vrai moteur pour l'île.
Il semblerait, oui.
Merci Alice Milo. Reportage réalisé en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie. Demain, 7 milliards de voisins, vous saurez tout sur la mode, sur la création, sur le continent africain. Nous parlerons tout particulièrement du wax, une identité africaine qui évolue avec le reste du monde. Appelez-nous d'ailleurs, les voisins et les voisines, pour nous dire comment tout simplement vous aimez porter le wax. Notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. À demain.
Oh,